hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Marie Romanins. Marie Romanins, vous êtes psychiatre, psychanalyste, auteur de plusieurs livres, Le Divan et le Prix Dieu, L'inconscient dans l'actualité, Maltraitance au travail. Le dernier paru s'intitule Pour une écologie intérieure avec Patrick Guérin et il a été publié aux éditions Payot. Comment avez-vous choisi la psychiatrie ?
Ah, c'est une histoire qui remonte à loin, vous pouvez imaginer. Si je regarde avec beaucoup de recul, parce que ça c'est des choses qu'on comprend qu'à la longue, qu'avec l'expérience, si je regarde avec beaucoup de recul, je pense que mes parents étaient tellement atteints dans leur propre psyché que je ne pouvais aller que là. Atteints dans leur propre psyché parce que ma mère était issue d'un secret, c'est-à-dire sa propre mère avait épousé un homme qui n'était pas son père, et ça c'était un secret familial qui se trimbalait, et voilà, qui l'affectait énormément évidemment. Et puis du côté de mon père, il y avait eu beaucoup de problèmes avec son propre père, et en plus il avait subi les méfaits de la guerre de 40 dans le sens qu'il a été STO. Il a été donc déporté en Allemagne et travaillé dans des conditions très difficiles puisqu'il était à côté d'un camp de concentration et travaillait dans une mine de sel. Donc, je pense.
Et comment avez-vous su tous ces secrets de famille très tôt ?
Non, sûrement pas. C'est justement avec la psychanalyse, avec le chemin de la psychanalyse, que j'ai pu découvrir tout ça. Je voyais bien, je devais sentir, toute petite, que mes parents, il y avait quelque chose de difficile, de très difficile pour eux. Mais en même temps, on faisait comme si ça n'existait pas. Donc, c'est très troublant pour un enfant, parce qu'il sent des choses, et en même temps, il ne peut pas se dire. Je peux m'appuyer sur ce que je sens, puisqu'à l'extérieur, personne ne donne appui à ça.
Et où avez-vous exercé la psychiatrie ?
J'ai exercé la psychiatrie à Annecy. D'abord en hôpital, et puis après, très vite, en cabinet.
Et comment avez-vous décidé de, petit à petit, de devenir une psychiatre psychanalyste ? Car il y a beaucoup de psychiatres qui ne font pas appel, et même de moins en moins. C'est d'ailleurs un des problèmes importants de notre société aujourd'hui, de moins en moins la psychanalyse.
Tout à fait. Moi, c'était dans les années fin 70, donc c'était l'inverse. En plus, j'ai eu la chance de débuter dans un hôpital tout nouveau qui était avec des idées de l'antipsychiatrie, donc c'était assez fabuleux comme époque, c'était très porteur.
Donc c'était la période Lane, Cooper en Angleterre, Basaglia en Italie.
Absolument, et on avait envie de travailler dans le même sens, avec un peu de trop d'idéal, peut-être un peu d'utopie.
L'ouverture des hôpitaux psychiatriques.
Voilà, mais en même temps, il y avait vraiment une bonne énergie. Enfin, j'en garde un très bon souvenir.
Et qu'avez-vous appris au cours de ces années-là ? Est-ce que le rapport au malade a construit votre personnalité de psychanalyste ?
Ça a aidé forcément. D'une part, je me suis dit, si je fais ce métier-là, il faut que je passe sur le divan moi-même. Donc de ça, c'était impératif pour moi. Je ne voyais pas la chose sans y passer moi-même à la casserole, entre guillemets.
Donc c'est après être devenu psychiatre que vous avez entrepris une analyse ?
Tout de suite après. Et puis en même temps, le contact avec les personnes qui ont des troubles mentaux permettent d'aller dans cette découverte que finalement, ce n'est pas quelqu'un qui est malade, c'est tout un système. Alors évidemment, ça se traduit à travers des symptômes portés par une personne. Mais ça fait faire un trajet pour comprendre mais d'où ça vient, quels sont les facteurs qui amènent là. Et donc, c'est effectivement, je suis partie dans tout ce travail de recherche.
Et comment avez-vous fait appel à la spiritualité ? Car on voit bien dans votre évolution que plus vous progressez, plus vous allez vers une sorte de psychanalyse faisant appel à la méditation et aux sciences non occidentales.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que j'ai même fait une formation à Qigong. Alors vous voyez, je me suis intéressée au taoïsme. Mais d'une part, j'ai eu une éducation catholique. À 15 ans, j'ai tout fichu en l'air parce que ça ne pouvait pas tellement correspondre aux idées
nouvelles.
J'étais croyante petite, voilà. Et à 15 ans, j'ai tout arrêté, je suis devenue athée. Je pense que c'était à la découverte des auteurs comme Voltaire, les humanistes, le siècle des Lumières, où là, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, mais ça va pas, les idées actuelles, modernes ne correspondent pas à ce qu'on m'a appris dans la religion. Et puis, ça m'a pas lâché pour autant, c'est-à-dire qu'après 20 ans, j'ai découvert des livres bouddhistes, et là, je me suis dit, tiens, ce que je lisais en tout cas. Il y avait une intelligence dans la voie spirituelle qui me parlait. C'était plus philosophique que religieux, ça m'allait mieux. Et du coup, ça m'a un peu rattrapée. Après, quand j'ai démarré un travail sur moi en psychanalyse, j'ai commencé par une psychanalyse jungienne. Parce que justement, je ne voulais pas lâcher cette dimension transcendante qui pouvait être reconnue du côté de Jung et beaucoup moins du côté de Freud. Ça, c'est
alors,
sûr.
Il faut expliquer.
Surtout à l'époque.
Surtout expliquer, Jung est un disciple de Freud, un disciple dissident.
C'est ça.
Petit à petit, leur écart s'est agrandi parce qu'ils ne partageaient pas la même vision
les
des choses.
Les mêmes orientations, oui.
Ni les mêmes orientations. Et Jung a apporté à la psychanalyse et continue à apporter, puisque le courant jungien existe encore aujourd'hui, une dimension donc d'inconscient collectif.
Oui, d'inconscient collectif et aussi la vision d'une poussée vers la transcendance, une poussée vers ce que Jung a appelé le soi, c'est-à-dire vers un tout, donc quelque chose qui va au-delà du moi. Et ça, c'était effectivement, à l'époque, c'était important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une analyse jungienne, avec effectivement des choses qui peuvent être revues. C'est ce que j'ai fait dans mon livre « Le divan et le prédieu ». C'est-à-dire qu'à l'époque, maintenant ça a beaucoup changé, mais à l'époque, il y avait une tendance à aller tout de suite vers le soi, justement vers la dimension la plus haute du côté des jungiens en général. Et on ne faisait peut-être pas assez le travail sur l'inconscient personnel par rapport justement au collectif. Alors que du côté de Freud, c'était très axé là-dessus. Voilà. Mais en même temps, du côté de Freud, pour moi, c'était une difficulté parce que si on parlait de spiritualité, pour un certain nombre de psychanalystes de l'époque, je dis bien, ça a changé depuis. Et bien, si on parlait de spiritualité, c'était on déplaçait nos problèmes personnels pour les mettre sur le plan spirituel, alors que c'était des problèmes tout à fait personnels liés à notre histoire familiale.
Nous allons écouter la voix de Claude Lévi-Strauss. Il va parler de son ouvrage « La pensée sauvage ». Au micro de Jacques Chancel, c'était le 16 novembre 1971.
Dans tout homme, et aussi bien chez nous que chez les Indiens de la forêt amazonienne, existent deux modes de fonctionnement de la pensée. Une pensée qui fonctionne à l'état sauvage et que nous pouvons observer chez nous dans une quantité de domaines qui ne sont pas régis par la loi ou par des normes morales ou autres, par exemple dans les traditions culinaires, dans la manière dont nous choisissons les noms que nous donnons non seulement à nos enfants, mais à nos chiens, à nos animaux domestiques, la façon dont nous donnons aux oiseaux des noms humains, la pie s'appelle Margot, etc. Enfin, bon, dans des domaines plus relevés, je dirais dans la cuisine d'abord, dans l'art également, que c'est une pensée à laquelle une certaine spontanéité se trouve concédée par la civilisation et qui fonctionne donc chez nous comme chez d'autres et qui s'oppose sous ce rapport à cette pensée que j'appellerais plutôt domestiquée, c'est-à-dire une pensée qui est mise au service de fins que l'on s'assigne pour en obtenir certains résultats théoriques ou pratiques.
Mais à quelle pensée êtes-vous le plus sensible, à la sauvage ou à la cultivée ?
Et le seul espoir de connaître l'homme et de comprendre quelque chose à l'homme, c'est d'arriver à les faire se rapprocher, c'est d'arriver à les faire se réunir. N'est-ce pas ? Et précisément, un des obstacles auxquels les sciences humaines se heurtent, c'est que, ou bien on s'occupe d'art, disons, de peinture, de musique, mais on prétend qu'il s'agit là d'un ordre ineffable et que ce sont les sentiments ou peut-être même une intuition mystique, enfin, qui est la clé de ce qui se passe dans la poésie ou dans d'autres formes d'art. De l'autre côté, il y a le savant qui est dans son laboratoire et qui manie avec quelle virtuosité cette pensée domestiquée, nous parlions il y a tout à l'heure, et l'ingénieur. Mais je ne pense pas que nous puissions aboutir à quoi que ce soit si nous n'arrivons pas à les faire se rejoindre et à considérer que ce sont les deux maillons d'une chaîne qui passe peut-être derrière notre dos, dont nous saisissons les extrémités des deux mains. Nous ne pourrons probablement, de par sa position, jamais arriver à retrouver le milieu de la chaîne, le point où tout se rassemble, mais nous pouvons tout au moins remonter progressivement des maillons de part et d'autre.
Nous venons d'entendre la voix de Claude Lévi-Strauss à propos de son ouvrage sur la pensée sauvage et on a l'impression, Marie Romanens, qu'au cours de votre évolution de psychanalyste, progressivement, cette pensée sauvage est devenue extrêmement importante à la fois dans votre vision de la psychanalyse et aussi dans votre pratique.
Oui, quand j'ai écouté au début cet extrait de Lévi-Strauss, ça m'a fait penser à Jung justement qui, lui, a été voir les peuples premiers. Il a beaucoup voyagé, il a été à cette rencontre-là. Et il s'est rendu compte que dans les grands symboles qui étaient véhiculés dans ces populations, ça rejoignait des symboles qui apparaissent dans les rêves. Et c'est pour ça qu'il a parlé d'inconscient collectif, c'est-à-dire que ces grands archétypes voyagent dans les psychés et on peut les retrouver à l'œuvre, même dans nos sociétés très modernes, occidentales, à travers les rêves des patients. Alors, je suis complètement en accord avec ce que vient de dire Lévi-Strauss, c'est-à-dire cette rencontre avec deux sortes de pensées qui, au lieu d'être clivées, très séparées, avec un grand fossé entre, ont besoin d'être conjuguées, d'être mélangées ou d'être travaillées ensemble, d'être tenues ensemble en tout cas, pas cette séparation radicale dans laquelle on est.
Dans quelles circonstances avez-vous quitté votre hôpital et pourquoi ?
Ah, je l'ai quitté très vite parce que je suis obligée de par ma personnalité, de travailler seule. Alors évidemment, accompagnée des lectures, du travail que je fais sur moi, donc avec des personnes, mais je suis une solitaire dans le travail.
Pourquoi ?
Peut-être que je me sens plus libre dans ce sens-là. Je vais vraiment le chemin comme je l'entends. Par exemple, ma formation, elle a été faite de briques et de brocs. Je n'ai pas suivi du tout les formations classiques. Et voilà, peut-être j'étais un peu effectivement en lien avec ma propre sauvagerie, mon propre élan vital premier qui faisait que j'essayais de le suivre.
Dans quelles circonstances avez-vous travaillé sur le harcèlement moral ?
À cause de ce qui a débarqué dans mon cabinet. À partir des années fin 80, début de 90, où un certain nombre de patients commençaient à me parler de leurs problèmes au travail. Bon, il arrivait avant quelquefois qu'une personne me parle de choses difficiles au travail, mais c'était épisodique, et puis ça pouvait correspondre aussi à son tempérament, à des difficultés de comportement. Alors que là, il y a eu vraiment un discours très similaire qui a débarqué dans le cabinet avec des personnes très différentes, des métiers très différents, et pourtant, elles disaient des choses semblables. On est harcelé, on nous met sous la pression, on n'y arrive plus, on est comme des pions sur les échiquiers, on n'en peut plus. Voilà. Et ça m'a amené à me poser des questions, mais dans quelle société on est ? Là, je ne suis plus avec quelque chose de l'ordre du personnel. Je suis peut-être avec quelque chose de l'ordre du collectif. Donc, je me suis mis à lire, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait sur le plan du travail. Et c'est ce qui m'a amené à écrire cet ouvrage en partant de ce que les patients me disaient.
Nous allons écouter la voix de Marie-France Irigoyenne sur le harcèlement moral. Elle avait fait un ouvrage qui avait fait date. C'est une archive du Vif du sujet du 24 juin 2003 au micro de Alexandre Hérault.
Ce que je crois, c'est que cette notion, comme moi j'en ai parlé, donc ça fait en 98, c'était quelque chose que moi j'entendais dans ma clientèle, cette souffrance au quotidien des personnes. Maintenant, effectivement, la notion est reconnue par tout le monde. Plus personne ne conteste la réalité du harcèlement moral, même pas les chefs d'entreprise.
C'est
devenu une infraction, tout à fait. Je disais même pas les chefs d'entreprise, même si quand ils sont accusés, ils ont tendance à être dans le déni. Mais il y a encore quelques années, tous les chefs d'entreprise disaient « Le harcèlement moral, ça doit bien exister quelque part, mais pas chez nous. » Maintenant, ce que l'on sait, c'est que il y a des ambiances de travail où il est incontestable que du harcèlement moral peut survenir. Et ce qui me paraît intéressant, parce que ce qui est intéressant dans la loi, c'est que la loi sanctionne le harcèlement moral, à la fois du harceleur lui-même, si ce n'est pas le dirigeant, mais également sanctionne l'entreprise qui laisse faire et oblige à une prévention et une vigilance par rapport au harcèlement moral. La difficulté, on le voit bien, c'est que il y a des ambiances de travail qui sont extrêmement dures, où les personnes sont fragilisées parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de respect, où il n'y a pas d'égard, et où on valorise effectivement la performance et on ne supporte pas les baisses de performance ou les fragilités ponctuelles des personnes.
Vous reconnaissez Marie Romanès dans les propos de Marie-France Hérigoyenne?
Oui, je reconnais complètement ce qui m'a été amené en cabinet, absolument. Les paroles des patients qui ont dit ce qui se passait sur le plan du travail et qui se sentaient vraiment maltraités.
Aujourd'hui, en 2013, avec le spectre de la crise, est-ce que cela augmente, même si effectivement cela devient une infraction?
Moi, je pense que ça n'a au moins pas changé. Au moins pas changé. Et ceux qui sont au travail, dans beaucoup d'endroits, on leur fait faire beaucoup plus qu'il ne serait normal de faire. C'est-à-dire que la charge a augmenté. Effectivement, comme il faut de la rentabilité, à ce moment-là, on demande aux personnes d'en faire beaucoup plus en moins de temps possible et en si possible mieux. Et puis, il y a toute la question des petits chefs ou des chefs qui eux-mêmes subissent une pression et après la décharge après sur leurs employés. Et ça fait des choses qui peuvent tourner vers la perversion.
Et puis, il y a les pervers narcissiques. Et
voilà, qui nagent comme des poissons dans l'eau dans ce système. Ils ont la possibilité par ce que le système lui-même est pervers. Le système lui-même est pervers, c'est-à-dire qu'on ne considère pas assez le facteur humain. Et on considère essentiellement le facteur rentabilité. Donc, à ce moment-là, les gens deviennent des objets. On demande aux travailleurs d'être productifs, mais on les considère plus comme des objets que des sujets. Je généralise, hein, évidemment. Ce n'est pas partout pareil. Hein. Il y a des entreprises où moi, j'ai rencontré des personnes, des patrons qui ont vraiment conscience de l'importance du facteur humain. Mais globalement, il y a une tendance à ça.
Et comment vous, en tant que psychanalyste, vous pouvez aider certains de vos patients?
Alors, d'une part, moi, je n'ai pas pu me taire. C'est pour ça que j'ai écrit. Je me suis dit, mais là, je ne peux pas me taire. Quand j'entends ça.
Mais vous ne parlez pas dans l'enceinte de votre cabinet.
Non, voilà, j'ai essayé de parler dans le public. Et dans le cabinet, eh bien, on essaye de voir, parce que souvent les gens qui ont subi ce genre de choses se dévalorisent énormément. C'est-à-dire qu'ils mettent.
Et n'osent pas peut-être énoncer.
Ils ont de la difficulté à se mettre en colère contre le système, à le critiquer. C'est eux qui n'ont pas été à la hauteur. Donc il y a tout un travail à faire pour se rendre compte du réel. C'est-à-dire, mais non, je ne peux pas faire plus que ça, mais ce sont mes limites. Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas l'autre qui m'en demande trop?
Et dans votre évolution personnelle, vous avez de plus en plus fait appel donc au taoïsme. Dans quelles circonstances êtes-vous tombé sur ce courant de pensée et que vous a-t-il apporté?
C'est par la pratique du Qigong. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait une pratique corporelle importante, au début avec du yoga, et après, je me suis tournée vers le Qigong et j'ai fait une formation en Qigong.
Comment pouvez-vous définir ce Qigong?
Alors moi, je dirais c'est quelque chose qui permet d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, une descente en soi, une descente dans le cœur. On parle du hara, les gens connaissent bien ce mot, c'est-à-dire vraiment dans le centre de soi, et d'être beaucoup plus en écoute de ces mouvements profonds, mouvements énergétiques qui se passent à l'intérieur de soi et forcément en relation avec l'environnement. Et juste d'avoir une pratique qui permet d'être très, très ouvert à cette fluidité de la vie en soi.
Et comment on peut l'apercevoir, cette fluidité de la vie, comme vous venez de la nommer, Marie Romanès?
Je crois vraiment par quelque chose qui est une descente en soi, une écoute très profonde. Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, le Qigong propose des exercices, propose des postures, propose de la méditation.
À partir de la respiration?
Alors, il y a des exercices de respiration, il y a des mouvements, il y a des postures. Voilà. Et à partir de là, de rentrer en soi et d'avoir cette écoute profonde de ce qui se passe au cœur de soi.
Mais est-ce que c'est conciliable avec la psychanalyse? Et si oui, comment?
La psychanalyse en individuel, je ne vois pas bien comment. Mais par contre, j'ai animé beaucoup de groupes, de psychothérapie de groupe, où là, il y a des temps corporels pour aider les personnes justement à rentrer en elles. Et ces exercices-là sont très porteurs.
Nous allons écouter la voix de Gérard Haddad, qui va parler de la psychanalyse et de l'état de décomposition du judaïsme. C'est une archive des vivants et des dieux, la psychanalyse et la Bible, une émission de Michel Cazenave, du 14 avril 2007.
Lacan n'a pas compris ça, me semble-t-il, ou alors il ne le dit pas. C'est que le judaïsme, et c'est de là qu'est née la psychanalyse, le judaïsme est dans un état de décomposition. Ce qui faisait l'unité jusqu'au XVIIIe siècle, être juif, c'était évident, on savait ce que c'était. Un juif, c'est quelqu'un qui pratiquait le judaïsme, qui mangeait kasher, etc. Qui pratiquait les lois et qui, pour qui la Torah était la référence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour la majorité des gens. Et à la place, nous voyons se développer une espèce de la définition du juif devient impossible. C'était la grande réflexion de Leibovitz qui demandait à tous les gens qui se disaient juifs, mais pourquoi vous dites que vous êtes juif? Vous êtes quoi? Vous êtes français, vous êtes je sais pas quoi, américain, mais pourquoi vous dites vous juif? Est-ce que vous respectez ça? Non. Mais, alors les gens lui répondaient, mais je me sens, puis c'est quelque chose, enfin c'est un flou, une espèce de mélasse comme ça. Et cette espèce de situation floue, indéfinissable, est venu et s'est nourri depuis quelques années, depuis un demi-siècle, un peu plus peut-être, de chauvinisme, de nationalisme avec la création d'un État juif, qui a été d'un grand apport pour le peuple juif, cet État, jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler, dès qu'on touche à cette question-là, ce que j'appelle donc la chose juive, c'est-à-dire cette espèce de truc en voie de décomposition, mais en même temps chauvin, en même temps, etc., injuste souvent, vis-à-vis du problème palestinien, par exemple. Dès que vous touchez à ça, vous êtes traité de tous les noms. Ça explose, c'est une matière fissile. C'est une matière explosive et qui touche toute l'humanité. Cela, Lacan ne l'a pas vu. Comme si pour lui, le fait d'être juif, ça se transmet dans les chromosomes. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ni du Talmud, ni de la Bible, ni de quoi que ce soit de ce type-là, eh ben, dans ses gènes, il connaît la musique, il connaît tout ça. Et je trouve que c'est une des faiblesses chez Lacan. Ce n'était pas le cas de Freud qui, lui, avait encore un pied là-dedans. Mais un siècle plus tard, la plupart de ces gens qui se déclarent juifs aujourd'hui n'ont plus aucune attache réelle. Et moins ils ont d'attache, et plus ils sont fanatiques. C'est ça qui est curieux.
Êtes-vous d'accord, Marie Romanès, avec les thèses de Gérard Haddad?
Alors, je ne peux pas les avancer aussi bien que lui, parce que je connais moins la question, alors que lui la connaît très bien. Mais oui, j'ai tendance à lui porter crédit tout à fait. J'ai trouvé très intéressant ce qu'il a écrit sur l'enfant illégitime, parce que je le rejoins à ce niveau-là. Je pense que Freud était influencé par cette tradition qui était d'interpréter les textes et les retravailler pour les réinterpréter, qui était une tradition juive, et qu'à son insu, Freud a été influencé par ça et l'a appliqué au discours laïque.
Et vous, alors, comment avez-vous été influencé par tout ce courant taoïste? Et comment ce courant taoïste a-t-il retenti à l'intérieur de votre pratique de psychanalyste?
Là, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est une phrase de Bion que je ne saurais pas citer exactement, mais qui dit à un endroit, quand on écoute vraiment en profondeur, en analysant, à un endroit, on va à un endroit qui est innommable, qui est insaisissable. Et c'est là où on pourrait parler du Tao pour rejoindre le taoïsme, c'est-à-dire une origine dont on ne peut pas parler. On est vraiment dans le mystère. Et c'est là où il peut se produire des choses complètement inattendues, et pour l'analysant et pour l'analyste. Mais parce qu'on laisse place à l'origine, je dirais. Et là, voilà, quelque chose peut surgir dans la parole.
Et est-ce que tout ça est autorisé vraiment par le mouvement psychanalytique ou est-ce que vous fabriquez un nouveau courant de pensée?
Je pense qu'il y a beaucoup de psychanalystes actuellement qui se posent ces questions-là. Bon, je parle de Bion, là, hein, qui a osé dire, à un moment donné, on est dans quelque chose qui est absolument insaisissable. Il y en a quelques-uns qui osent dire ça, des quelques phrases là-dessus.
Nous allons écouter la voix de Françoise Héritier, à propos de son ouvrage majeur « Le masculin et le féminin ». C'est dans une émission intitulée « Mise au point » du 4 mars 1996 au micro de Éliane Contini.
la chose extrêmement importante, c'est la chose suivante, c'est qui nous différencie de l'animal, c'est l'obligation de donner du sens et la capacité de donner du sens à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, à ce que nous entendons, à ce que nous comprenons. Et donc cette obligation de donner du sens, elle porte déjà sur le sens donné au corps, à son propre corps et au monde dans lequel il est plongé, et aux autres corps qui participent de ce même monde, si je puis dire. Et alors, à ce moment-là, il se trouve que la pensée classe nécessairement les choses, essaye de les ordonner, de les comprendre, et il se produit la distinction primordiale est celle effectivement de l'identique et du différent. Si le regard que porte cet homme sortant de l'animalité sur son corps et le corps de ses congénères est le premier, il va observer des similitudes. On a deux yeux, un nez, des oreilles, etc. Nonobstant les petites différences de détails, la couleur ou la forme, mais des similitudes et deux ou trois différences, celles-là qui sont irréfragable, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller, irrécusable, on ne peut rien faire avec elle, il faut s'en accommoder, mais ce sont des différences fondamentales. C'est les différences anatomiques visuelles, visibles, à savoir les sexes, la différence des sexes, et puis les différences physiologiques, c'est-à-dire l'émission de liqueurs particulières, de liquides particuliers. Alors le sperme pour les hommes, le lait pour les femmes, et le sang, avec cette différence fondamentale, que les hommes peuvent voir leur sang couler, mais à ce moment-là, c'est à la suite de violence, tandis que les femmes le voient couler de façon passive, elles le subissent. Et alors, il y a en plus cette différence inouïe qui est la capacité proprement féminine de donner la vie, de reproduction à l'identique avec des objets féminins ou masculins, mais une reproduction dont elle est maîtresse, puisque à l'origine, tout le monde ignore la contribution de l'homme, les gamètes. Les gamètes...
On a mis du temps à les découvrir.
Alors, il a donc fallu toute une série de processus dont je ne parle pas tout de suite, mais ce que je voulais dire, c'est que cette opposition identique-différent, elle a été immédiatement, elle est tombée sur un butoir. Et ce butoir, c'est le butoir de toute pensée, ce qui fait qu'on considère que ceux qui sont bâtis comme soi sont les identiques, ceux qui sont bâtis différemment sont des différents. Et cela structure avec le masculin-féminin, le consenti justement, le voulu ou le subi, et toute une série de un ordonnancement de catégories binaires qui structure toutes les pensées de toutes les sociétés du monde, de tous les hommes en société.
Nous venons d'écouter les propos de Françoise Héritier à propos du masculin et du féminin. Et vous, Marie Romanas, dans votre pratique de psychanalyste, comment cette différence, cette opposition même entre masculin et féminin structure-t-elle l'inconscient, selon vous ? Et acceptez-vous les thèses de Françoise Héritier ?
Oui, tout à fait. Je trouve qu'elle a fait un travail remarquable, Françoise Héritier, qui permet de bien comprendre des choses. Forcément, nous sommes structurés par ces différences-là. Naître fille, naître garçon, ça n'amène pas les mêmes sensations. Elle l'explique très bien, et ça part du biologique. Ça n'amène pas le même vécu. Et ça crée cette différence qui fait qu'on ne peut pas connaître l'autre, on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'autre vit, puisque nous ne sommes pas... construit pareil. Et en même temps, pourtant, on sait, et Sayung l'a amené très fortement, qu'il y a en chacun de nous et du féminin et du masculin. Et c'est, alors, on a parlé d'alliance tout à l'heure entre les deux pensées, la pensée plus rationnelle et la pensée plus sauvage. Et là, c'est vraiment la question de faire jouer ensemble ces deux pôles pour une sorte de dans l'idéal de mariage intérieur. C'est jamais fini, c'est toujours en travail. Pour arriver à trouver ce que Jung disait, quelque chose qui émerge de la tension des opposés, c'est-à-dire un troisième terme. En l'occurrence, si c'est masculin-féminin, c'est de l'ordre de l'enfant, c'est-à-dire d'un jaillissement, d'une énergie nouvelle qui nous fait être dans quelque chose de créatif.
Mais on a l'impression que plus vous avancez dans votre pratique analytique, Marie Romanas, et dans votre possibilité de méditer les sciences de l'écologie, plus vous venez à vous interroger sur les sources de notre humanité, notre part animale. Je pense notamment à votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions Payot pour une écologie intérieure. On a l'impression que vous tentez de cartographier tout ce que la psychanalyse, finalement, a réprouvé, ce qu'on appelle instinct.
Non, la psychanalyse n'a pas réprouvé. Enfin, je ne dirais pas ça. En tout cas, je ne pense pas. Par rapport à Freud, Freud a dit « Attention, il y a des choses qui se passent, qui nous conduisent dans des endroits ou dans des façons de faire qu'on ne maîtrise pas. » Et ça, c'est, il a redonné importance à l'inconscient en disant « Et c'est de l'ordre du pulsionnel. » Donc, il y a quelque chose de l'ordre du primitif, effectivement, avec nos besoins premiers. Mais donc, il y a plutôt reconnaissance à ce moment-là. Bon, après, on peut dire « Oui, mais il faut se conformer à une société, etc. » et se dévoyer de l'intuition originelle, voilà, pour dire « Allez, il faut se conformer absolument à la société. » Ce qui n'est pas le but de la psychanalyse au départ. La psychanalyse est plus un travail de rechercher tout ce qui est en travail justement à l'intérieur de nous pour que ça émerge et que ça prenne sa place, ça prenne du sens et qu'à partir de là, on fasse quelque chose, on agisse ou on parle en fonction de justement tout ce travail intérieur, en connaissance plus de causes. Voilà. Tout cela pour en revenir à votre question, rappelez-la-moi.
Sur l'homme sauvage à l'intérieur de nous,
oui.
Nos racines plus primitives.
Voilà.
Alors, et la puissance de la nature.
Voilà. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un courant qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle l'éco-psychologie. Comme toujours, on est en retard. Et l'éco-psychologie est née dans la fin des années 90 aux États-Unis, le terme proprement dit. Et avec une critique par rapport à la psychologie classique qui était « vous vous intéressez finalement qu'à l'humain, l'homme avec lui-même ou l'homme avec les autres hommes, mais vous n'êtes pas intéressé du rapport des hommes avec l'environnement, avec la nature, et ça n'a pas été pris en compte pour réfléchir sur la psyché, sur sa construction, qu'elle peut être construite aussi à partir de cette relation-là ». Donc, il y a eu une critique et aussi en sens inverse de l'écologie en disant vous ne vous êtes pas penché sur la question de l'homme. Ça va mal sur le plan de l'environnement, mais c'est quand même l'homme qui en est responsable. Et qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme ça? Donc, il faut bien s'occuper de sa psyché. Donc, voilà, c'est né de ça. Donc, nous, on a voulu voir, je dis nous parce qu'on est une petite équipe à travailler là-dessus, on a voulu se pencher sur qu'est-ce que c'était vraiment, à quoi ça correspondait. Et effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que dans la psychologie classique, il y a eu peu de choses qui se sont développées dans ce sens-là. Il y a eu la psychologie de l'environnement qui de plus en plus prend en compte la nature, mais au début c'était plutôt l'urbanisme, l'architecture, des choses comme ça. Et il y a peu d'auteurs psychanalystes qui ont écrit là-dessus. Il y a eu Harold Searles aux États-Unis qui a écrit « L'environnement non humain ». Et ça, c'était déjà dans les années 60, mais je ne connais pas beaucoup d'écrits faits là-dessus.
Et vous donc, vous partez dans votre dernier ouvrage d'observation clinique, vous partez aussi d'expérience avec certains de vos patients en analyse, vous partez des rêves qui vous sont donnés à l'intérieur de votre cabinet pour pouvoir analyser quelles sont ces racines profondes qui font qu'encore aujourd'hui, malgré notre hypermodernité, eh bien notre corps, notre inconscient semble encore régi par des choses très pulsionnelle, qui viendrait de la nature, cette nature qui nous influencerait au plus profond de la noirceur de la nuit.
Oui, alors bien sûr, il faut absolument.
C'est impressionnant
pas
ce que vous racontez.
Merci. Évidemment, il ne faut pas mettre à l'écart tout ce qui est de l'ordre de la relation de l'homme avec soi, de l'homme avec les autres humains. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas enlever ça. Mais cela dit, on peut rajouter la couche suivante, c'est-à-dire l'homme avec la nature. Et j'étais impressionnée à certains moments. J'ai une personne, par exemple, qui me vient en tête là immédiatement, comment elle expliquait qu'elle a vécu en Afrique quand elle était petite. Donc, comment son corps a été baigné de ça, de cette chaleur, de cette humidité à certains moments? Enfin, moi, je ne peux pas le décrire parce que je n'ai pas eu ce ressenti-là, mais elle le décrivait. Et comment, quand elle est arrivée en France, ça a été un choc pour elle. Donc, ça a été la séparation avec sa famille, ça a été la mise en pension. Mais il y avait aussi ça, cette perte des repères du lieu. Et avec tout ce que ça enclenche comme manifestation au niveau des sens, de les odeurs évidemment, de la peau qui sent la chaleur, qui sent l'humidité, effectivement des bruits, etc. Et comme ça, c'est, pour elle qui était adolescente, c'était une rupture brutale. Et encore des années après, elle en parlait comme
donc
quelque chose.
Donc ça peut atteindre le psychisme.
Ah oui, c'est certain.
Une relation dans l'enfance comme celle de cette patiente que vous décrivez a pu construire une partie de son identité.
Absolument.
La plus secrète.
Oui, oui, oui. Créer un fondement, je dirais un fondement sensoriel, qui fait que, bien sûr, il y a aussi toutes les relations avec l'humain qui s'installent autour de ça, ou par-dessus ça, je ne sais pas comment le dire. Mais dans la psyché, il y a aussi ce fondement sensoriel lié à notre environnement immédiat.
Et pour la majorité de la population, qui par définition, hélas, n'est pas en rapport avec la nature la plupart du temps, comment imaginer cette espèce de lien comme ça très profond que nous aurions tous en tant qu'humains, parce que nés humains, avec la nature comme une sorte de force primitive.
Mm-hmm. Alors ce que Harold Searle disait, mais pour le bébé, c'est tout l'environnement. On voit bien un bébé qu'on change de lieu, comment il peut être perturbé. Par exemple, il dort moins bien, il crie plus, etc. Parce que le bébé et son environnement font un tout. Donc il est aussi, ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de « il » à ce moment-là, mais ce tout est aussi les objets qui sont là, les murs qui sont là, la décoration, la fenêtre. Et même si on est en ville, il y a du ciel, il y a la terre sous nos pieds, il y a l'air qu'on respire qui vient des arbres. Cet oxygène vient des arbres. Donc on est, qu'on le veuille ou pas, on est en relation. Alors évidemment, c'est beaucoup plus filtré hein, en ville, mais elle est là. Voilà. Et il y a aussi les objets non humains qui font partie de cet environnement qui nous construisent.
C'est-à-dire
que, c'est ce que j'expliquais, un bébé qu'on change de chambre, il a l'habitude de sa chambre, il a l'habitude de couleurs, il a l'habitude d'une certaine ambiance, il a l'habitude de certains objets. Si on le change d'endroit, il va être un peu plus perdu, quoi. Heureusement, il y aura ses parents, etc., qui vont l'entourer. Donc, il y a un certain entourage très fondamental qui va rester autour de lui et qui va l'aider à passer le cap.
Mais donc, nous dépendons tous de notre environnement, quel que soit l'âge que nous avons.
Sur le plan psychologique, oui. Alors, évidemment, pas de la même façon par rapport à un bébé. Un adulte, il va pouvoir aller à l'autre bout du monde en étant beaucoup moins perturbé, c'est évident. Mais ça ne fait pas rien.
Notre besoin de nature est-il inconsolable? Est-il nécessaire? Est-il vital? Vous expliquez dans votre dernier ouvrage, Marie Romanins, vous parlez d'une femme que vous avez dû avoir dans votre cabinet, qui est partie à un moment s'isoler en pleine nature alors qu'elle était assez fragile sur le plan psychologique. Mmh. Et finalement, cette espèce d'immersion dans la solitude que cela impliquait d'être séparée du monde lui a apporté plutôt de l'angoisse avant de lui apporter de l'apaisement.
Oui, c'est-à-dire que ça peut provoquer les deux choses. François Terrasson a beaucoup parlé de notre peur de la nature, parce qu'effectivement, on est en face de forces qui peuvent nous dépasser, qui peuvent être dangereuses, on le sait bien. Une crue, ça peut emporter beaucoup de choses, et même des hommes. Donc, on est en face de forces qui peuvent nous dépasser, même si, avec la modernité, on a beaucoup appris à les maîtriser. Et puis aussi, ça nous renvoie à, justement, ce qui en nous peut déborder. Vous voyez, la crue, c'est de l'eau qui monte, bon, très tangiblement, mais en nous, il peut y avoir des débordements émotionnels qui peuvent nous faire peur. Donc, ça nous renvoie aussi à ce qui est de l'ordre de la nature profonde, notre nature profonde, et avec des choses qui sont difficiles à prendre en compte en nous-mêmes.
Est-ce que, dans une cure analytique, est-ce que vous conseilleriez à des patients qui sont justement en état de décompression, en état d'interrogation sur leur devenir, d'aller s'isoler en pleine nature, d'aller contempler la nature?
Non, je ne le ferai sûrement pas. C'est si la personne dit qu'elle se posait cette question-là, j'essayerai de l'aider à creuser son désir et qu'est-ce qu'elle cherche par là. Et peut-être, oui, à ce moment-là, lui dire « mais pourquoi vous ne le feriez pas ?» Mais c'est si ça vient d'elle, si elle amène ces questions-là. Je ne le dirai pas d'emblée.
Qu'est-ce qu'il y a de sauvage à l'intérieur de nous?
Ben, le côté cannibale, tueur, désirant posséder tout, désirant aussi séduire tout le monde. Enfin, il y a toute cette animalité première. Et puis, il y a un instinct de vie très fort, une pulsion de vie très fort, et qui peut nous amener extrêmement loin, pas seulement dans des choses comme ça que je nomme et qui peuvent paraître catastrophiques si on les laisse aller comme ça, mais qui peuvent nous amener au plus sublime, ce que Freud a appelé la sublimation.
Nous vivons un temps où la psychanalyse est un peu mise de côté, elle est même suspectée par certains d'être une science non rationnelle. On vit un temps aussi où la psychiatrie, on en parlait en tout début d'émission, mais contrairement aux années 70, aux années 80, c'est complètement ou pratiquement complètement coupé de toute influence psychanalytique. Comment voyez-vous l'avenir de cette psychiatrie ?
Très difficilement. Effectivement, quand je vois ça, l'autre jour, j'ai entendu des personnes qui travaillaient comme ça dans des milieux hospitaliers, qui racontaient ce qui se passait. J'en ai pleuré. Parce que par rapport à ce que j'ai connu, où bien sûr il y avait de l'illusion, on était trop utopiste, etc. Il fallait un peu mettre un peu de l'eau dans notre vin, mais il y avait quelque chose d'une foi, il y avait quelque chose où on cherchait vraiment à avancer, alors que là, je trouve que c'est pour l'instant un recul phénoménal qui se passe et j'en suis très attristée.
Vous plaidez pour un lien beaucoup plus fort avec la nature, mais cette nature, nous l'endommageons tous les jours. Est-ce à dire que votre propre philosophie s'alimente à une nécessité de défense de l'écologie ?
Oui, et en même temps, forcément, c'est là où je me sens des fois en difficulté, parce que je vois aussi les excès de l'écologie. Il peut y avoir des Khmers verts, et là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire, on est obligé, c'est toujours la même chose que Jung parlait de l'attention des opposés, on est obligé de tenir compte et de l'homme et de la nature. Il ne s'agit pas de faire tout pour que la nature soit absolument préservée, etc. On est bien obligé de tenir compte des aspects sociaux, des aspects humains. Et comment arriver à tenir tout ça ensemble de la meilleure façon possible ? Ça ne peut être qu'un chemin qui se fait.
Vous remettez-vous toujours en question chaque jour, Marie Romanès, dans l'exercice de votre métier ?
Là, je travaille beaucoup moins. C'était peut-être ma remise en question dernière, c'est-à-dire de lever le pied et de me dire je me mets à la retraite progressivement et pour m'orienter.
À votre âge ?
Mais je ne suis pas si jeune que ça. Je ne suis plus tout à fait jeune. Et puis parce que, oui, je suis à un autre tournant de ma vie, que j'ai plus envie de continuer vers la recherche, vers la créativité, voilà, et cultiver mon jardin.
Merci Marie Romanès. C'est peut-être parce que vous avez plus de temps que vous le prenez aussi pour écrire. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'intitule « Pour une écologie intérieure ». Il a été rédigé avec Patrick Guérin et il est sorti aux éditions Payot. Merci.
Merci.
Toute l'équipe de Hors-Champ, Stéphane Touvenin, Didier Lagarde, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, Brigitte Bouvier. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.